Ok, ce chiour dédié à l'élévation de l'âme de Ariel Eliaou Ben Esther de la famille Ishaï. Zechonon Livracha. Une question de Jérémy.
Alors, en fait, je voulais savoir, on dit dans la Torah, Imen Kemach en Torah. Et pourtant, on voit beaucoup de. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Donc, sous-entendu, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de Torah. Donc, pourtant, on voit beaucoup de pratiquants qui étudient aveuglément et qui sont payés, on va pas dire ça, mais presque une misère, entre guillemets. Et
pourtant, non, une misère.
Et pourtant, qui continuent d'étudier. Donc, je voulais savoir si c'était de la émouna ou de l'inconscience et comment est-ce qu'on doit faire son choix par rapport à ça.
Bon, on peut répondre rapidement et aussi plus profondément. En rapidement, tout simplement, que pour faire un choix entre ce qui est accessoire et ce qui est essentiel. Mais accessoire ne signifie pas inexistant. Il est inconcevable que nous soyons venus sur Terre pour manger comme un mixeur, pour construire des maisons, amener des enfants et finir à mettre sous terre. C'est une chose que, mon humble avis, et je pense que n'importe qui a un peu de matière grise dans son crâne, ne peut accepter. Il y a un véhicule, on doit s'en occuper. Sinon, on est en panne. Donc il faut de l'essence, il faut de l'huile, il faut laver la voiture, il faut changer de voiture, il faut s'en occuper. Mais il y a l'essentiel, c'est le conducteur. Et la voiture qui est là pour le servir. L'essentiel, assurément, est moi. Moi, ça veut dire ma spiritualité, le sens. Il y a un sens. Maintenant, Dieu, après que le premier homme ait péché, il l'a maudit. Bezat apecha tochal lachem. À la sueur de ton front, tu mangeras du pain. Ok, on est maudit. Et l'humanité entière a tellement bien compris la malédiction qu'ils l'ont pris, ils l'ont mis sur l'entrée des camps. Arbeit macht frei. Le travail rend libre. Les camps ont été supprimés, mais l'aliénation du travail n'a pas été supprimée. D'accord ? Dans le monde encore, en gros, dans presque le monde entier, le travail, c'est la santé. Ça veut dire, il faut bosser, il faut que tu aies un diplôme, il faut que tu aies un travail, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est ça le sens de la vie. Le sens de la vie. Et nous disons, non, 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 c'est une malédiction. Ok, je suis maudit, je dois tirer mon boulet. De là, en faire maintenant, mettre un boulet sur un piédestal en or. Voici ma finalité. Non. Donc, il y a l'accessoire, c'est la malédiction, et il y a l'essentiel, qui est moi, la spiritualité. Chazal vient et te disent, ne vis pas non plus comme un fou. L'ermite, que je vais vivre de Torah et d'eau fraîche. Ils disent Zudar Kachel Torah, ça c'est la voie de la Torah. Pas de Bamel Artochal, tu mangeras du pain avec du sel. Maim Bam Sora Tishte, tu bois de l'eau en mesure. Alar Tishan, sur la terre, tu dors. Et Ashrecha Vetovlach, t'es bien heureux et tes jours sont bien. Bien heureux sur terre, tes jours sont bien dans l'âme-bas. Il m'a dit, si tu fais ainsi, c'est vrai qu'on te dit non plus ne pas vivre des mille et une nuits, qu'on appelle ça la folie des grandeurs. Mais tu dis de l'autre côté, en kemach en Torah, il ne faut pas croire que tu peux vivre non plus sans rien. Parce qu'il y a une malédiction à la sueur de ton front, tu mangeras du pain. Donc il faut qu'il y ait du pain. S'il n'y a pas de pain, s'il n'y a pas de voiture, il n'y a plus de conducteur. S'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de Torah. Il y a un véhicule, il faut le nourrir. Alors, l'un n'est pas contradictoire avec l'autre. Il faut se nourrir, il faut s'occuper du corps. Mais il faut savoir que ce n'est qu'un véhicule qui est accessoire. L'essentiel, ce n'est pas ça. Alors, le critère est très simple. Et c'est ainsi que vivent le monde des Bnei Torah, qu'on appelle les fils de la Torah, le peuple juif, idéalement tel qu'il est censé être. J'étudie la Torah. Maintenant, j'ai besoin aussi de me nourrir, d'avoir un minimum nécessaire. Alors, je travaille. Et chaque moment de libre où je ne travaille pas pour ce qui est nécessaire, je la donne à la Torah. Ça, c'est la façon juive de faire. Ça, c'est en premier niveau, facile à comprendre. Quand tu dis, je vois beaucoup de gens inconscients qui reçoivent une paye misérable, elle est misérable, du kollel, et ne travaillent pas. Et j'en rajouterai, leur femme travaille. Alors là, c'est tout à fait, c'est une chose qui est nouvelle. C'est une chose nouvelle, c'est-à-dire d'il y a quelques siècles, où les grands peuples juifs ont compris que nous vivons en situation proche d'anéantissement. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui, on va dire combien de millions ? 16, c'était gentil, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu un chiffre aussi généreux que ça. Allez, disons 15, moi je pense que c'est 12. Il y a beaucoup de convertis qu'on ne sait pas très bien ce que c'est, qui, quoi, comment, ok. Bon, on va dire 15 plus simple dans les calculs. Il y a 6 milliards d'habitants, donc nous représentons 0,25% de l'humanité. Il y a 2000 ans, les historiens disent, on représentait 8% de l'humanité. Il y a 6 millions de juifs dans le monde, 2 millions en terre d'Israël, 1 million en Babylonie, 1 million en Égypte, encore 2 millions éparpillés dans l'Empire romain. Donc, à l'époque, 6 millions de juifs, 8% de la population. Donc, au prorata, on aurait dû être aujourd'hui combien ? Jonathan ? 480 millions, merci. Donc, il nous manque combien ? 480 millions moins 15, ça nous fait 465 millions. Où ont-ils disparu ? 6 millions la Shoah, 1 million les Cosaques, encore 1 million, on va dire, Staline. Allez, je donne maintenant 100 millions. 100 millions qui ont été massacrés. Ceux qui ont été massacrés, les enfants qu'ils auraient dû avoir et qui n'ont pas eu. Reste 365 millions qui manquent. 365 millions, c'est pas peu. C'est plusieurs fois la France. Nous, à Israël, on aurait pu être un des grands peuples du monde. On est peut-être 15 millions. Comment ça se fait ? Tu feras le calcul à l'occasion, je t'expliquerai. Réponse, assimilation. 365 millions de juifs manquants ont été assimilés. Pourquoi et comment on s'assimile ? C'est très simple. Il y a une perte, progressive ou dégressive. Perte d'identité juive, qui passe toujours par un assouplement de la halakha, de la pratique juive. L'arrière-grand-père est très religieux. Le grand-père fait un tout petit peu moins. Un tout petit peu moins. Le père fait déjà beaucoup moins. Le fils fréquente Christine. Le petit-fils n'est plus juif. Alors regardez, je ne vous connais pas, mais dans vos familles, dans 95% des cas, tu as toujours un oncle, un cousin, un neveu qui avait Christine. Dans presque toutes les familles juives au monde. Dont l'arrière-grand-père d'habitude, dans 95% des cas, donc l'ancêtre qui vivait il y a un siècle, qui avait votre âge il y a un siècle, était un hyper-pratiquant. Alors qu'à l'époque, prenez un siècle en 1907, 60 à 70% du peuple juif étaient non pratiquants, très juif dans son identité, mais non pratiquant. Où sont leurs descendants? Dans 95% des cas, goy. Il y a toujours des exceptions. T'as un grand rabbin dont les petits-enfants sont goy, et t'as un grand goy, enfin un grand assimilé, pas encore. Donc tout à coup, les enfants ont fait tchouva, et aujourd'hui, ils sont des gens dans la Torah. Il y a des exceptions, mais tu prends la généralité, c'est toujours comme ça que ça se passe. Tu fais de moins en moins, donc tu vas donner à ton fils un message éducatif juif non cohérent. Parce que si la Torah est vraie, le Kadoura en coupe en deux. Ça oui, ça non. Le message que tu donnes à ton fils, c'est ça, je fais parce que ça m'arrange, quelque part, dans mon modus vivendi, je me suis arrangé comme une sorte de combine. Le porc, je ne touche pas. Yom Kippour, Brit Mila, couscous boulette, daf ou gefilte fish d'après les origines, enterrement, mariage, bar mitzvah, Natania Elat, Ashdod un peu, le soir du Seder, Pessah, Hanouka, voilà, en gros. Sukkot, connaît plus, Shabéav, connaît pas, Shavuot, non plus. On prend la carte. Ça marche pas longtemps. Parce qu'après, il y a déjà deux cartes. T'as Hanouka, puis t'as Noël, puis t'as Christine. Et Christine, désolée, mais elle est attirante. Sarah, Rachel, Léa, juive, ok, mais sont durs. Christine, souvent, elle est blonde. L'effet du cheveu blond sur le juif, c'est phénoménal. Il commence à zigzaguer comme ça. Donc s'il n'y a pas maintenant un message cohérent, puissant, vrai, avec un comment et un pourquoi et une pratique et un amour, il y a de la perte. Elle n'est pas aujourd'hui, mais tu peux signer. Tu vois les gens, tu peux signer dans deux générations, goy, trois générations, goy, peut-être pas tous, mais une grande partie. Tu peux signer, c'est évident, évident. Alors regardez, c'est pas gentil de dire aujourd'hui. Il y aurait un siècle. Si j'avais dit ça il y a un siècle, alors j'aurais été où? Un type très intelligent ou un prophète? Aujourd'hui, c'est la réalité. La réalité. Il n'y a qu'à voir la réalité. Il n'y a aucune raison que ça change. Au contraire. Les grands peuples juifs, il y a quelques siècles, ont vu qu'il y a une déperdition très très grande en assimilation. Pourquoi? Parce que les conditions d'existence sont difficiles. La lumière de la Torah, elle ne passe plus. Nous sommes très éloignés de la source. Donc il faut absolument, pour préserver le peuple d'Israël, qu'il y ait une élite qui est là pour définir le sens. Une élite qui va éviter les écueils du monde extérieur, qui est dévouée complètement au service divin. Les cadres juifs, les cadres spirituels du peuple juif, qui vont donner les messages, qui vont guider les bergers du peuple juif. Et pour qu'il y ait un grand berger qui sorte, il faut... C'est comme l'armée de l'air en Israël. On a 1000 qui rentrent pour candidat et pilote. Il y en a un qui sort pilote. Alors les autres, ils ne sont pas mis au rebut, mais ça te fait une masse de gens qui étudient, une masse de gens qui ont le message, une masse de gens qui vont dans leur famille, qui éclairent. Ce n'est pas les grands dirigeants du peuple juif. Un parmi les 1000, parmi les 10 000, sortira grand dirigeant. Mais les autres ont aussi un rôle de dirigeant plus petit. Il est nécessaire, il ne faut pas être un grand religieux, un peu futé pour comprendre, que si tu n'as pas dans un peuple une minorité qui exprime le sens, l'identité, le peuple disparaît. Regardez aujourd'hui, c'est stupéfiant. J'ai un élève qui vient d'arriver maintenant à l'Eshiva, qui vient de quitter l'armée, dans une unité très très calée, de très haut niveau. Et il m'a dit, ils sont tous religieux. Je ne te crois pas. Ils sont tous texte religieux. Je ne te crois pas. Moi, j'ai commencé il y a 30 ans. Il y avait un religieux, tous. Kibbutznikim, qui était dans toutes les unités de combat les plus calées à l'armée. Qui c'était? Les kibbutznikim, les idéalistes israéliens du kibbutz. C'est mort. Mort. Ils sont où maintenant? En Thaïlande. Comme ça on fait? Ou comme ça? Pas où. D'accord, je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Le suédoise. Pas tous, je ne veux pas être méchant. Mais, c'est quoi leur idéal? L'idéal juif, sioniste, du kibbutz. C'est une réalité, peut-être qu'il y en a qui ne me croient pas, d'accord, mais pas besoin. Je ne suis pas en train de briser un mythe. Je suis en train de parler d'une réalité que tout le monde sait. Qui a le sens? Qui aujourd'hui a un amour de la terre d'Israël? Qui a une raison pour laquelle on se bat, on veut cette terre? À l'époque, c'était, on est un peuple qui est persécuté parmi les peuples, terre de Herzl, on veut maintenant créer un foyer pour être en sécurité. Herzl dit, peu importe Birobidjan ou Israël. Oh, Hachem se fait Israël et non Birobidjan. Bon, maintenant on a cette terre. Ça fait 60 ans bientôt qu'on y est. Qu'est-ce qu'on fait? Et bon, on s'éclate. Mais toi qui as s'éclaté, allons-nous éclater à New York, en Californie. T'as 1 million d'Israéliens en Californie. C'est qu'elle va mieux en Californie qu'ici. La ville est dure ici. Puis ça saute sans cesse. Boum, boum, boum. Et pas en feu d'artifice. Alors, cet idéal, il a eu été. Il est mort. Il faut qu'il y ait un autre. Sinon, il n'y a pas de suite. C'est la terre de mes ancêtres, Avraham, Yitzhak, Yaakov, qui m'est donnée par Dieu. C'est une terre sainte. Rabin, qui était un non-religieux, il disait, Kabbalah biyadé, dans une tradition, les bnei yeshivot ne vont pas à l'armée. Pourquoi? Dans un état de guerre. Chaque soldat est important. Il dit, non. J'ai besoin de sens. J'ai besoin qu'il y ait une armée spirituelle qui définisse le sens. Alors les juifs courageux, qui prennent sur eux d'être l'élite du peuple d'Israël. L'élite. Ils ne roulent pas en Mercedes, ni vont dans les grands restaurants. Ils vivent une vie de Torah, humble, simple, mais ils ont un idéal, ils ont un sens. Et il y a des femmes qui veulent épouser des hommes qui vont donner ce sens. Des femmes qui sont prêtes à faire beaucoup. J'ai ici un avocat à la yeshiva qui est venu me voir cette semaine. Il m'a dit, je calcule avec ma femme, je vois que là je suis en train de, tous les mois, il me manque certaines sommes pour finir le mois. Et ça va aller en s'accusant. Parce que le moment est venu que je sorte pour aller travailler. Je dis, je pense effectivement que c'est, on s'en sort pas, il faut arrêter d'étudier pour aller travailler. Il dit, j'en ai parlé à ma femme, elle veut pas. Elle dit, elle est prête à bosser comme elle bosse, mais pour avoir de la Torah. Si maintenant, moi aussi, je sors travailler, elle n'aura plus le même entrain. Et en fait, on arrivera au même résultat si je sors travailler. Il y a des femmes qui veulent. J'ai marqué, « Bizrut nasham tzadkaniyot yatsanu mitzrayim » Grâce aux femmes tzadkaniyot, juste, nous sommes sortis d'Égypte. S'il n'y a pas, on dit toujours, derrière un homme, il faut une femme. S'il n'y a pas une femme qui est derrière et qui est le rempart de son mari, le mari est ratatiné. Tu as des femmes qui sont des femmes exemplaires dans le peuple juif, qui sont les femmes qui aident le peuple juif, qui disent à leur mari, je veux qu'étudie la Torah. Et moi, j'assure. C'est complètement à l'envers. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. L'homme, il doit travailler, amener à manger, la femme, elle doit être à la maison. Et c'est tout le contraire. L'homme, il va étudier, la femme, elle sort, qui fait à manger, je ne sais pas très bien, l'homme des fois, d'accord, et les enfants, bah, c'est le monde à l'envers. Mais, on te dit, le monde est à l'envers. Quand le monde y part à la dérive, quand c'est l'exil, quand on sort d'une Shoah physique de 6 millions de juifs, et qu'on sort d'une Shoah spirituelle de quelques centaines de millions de juifs qui ont disparu, on ne peut pas se permettre de vivre dans les conditions normales de vie. Qu'un paquebot qui roule par mer normale, Alors on mange sur une table dans le restaurant du paquebot. Quand il y a une tempête terrible et tout vole tous les côtés, alors on mange, on s'accroche comme ça et on mange, je ne sais pas comment on mange, d'accord, avec les doigts.
Alors maintenant c'est la femme qui enfonce avec douleur et qui travaille.
Voilà, nous sommes dans une situation complètement anormale. Dans le peuple juif, on te répond oui, mais lorsque la situation est anormale à l'extérieur, ça a des incidences sur notre situation à nous. Je ne peux pas me... Quand on est en train, quelqu'un qui est en train, au niveau médical, il est en train d'être d'étouffer, en asphyxie totale, d'accord. Alors il a un autre fonctionnement du corps que lorsque tout va bien. Nous sommes en asphyxie. En asphyxie, alors on est obligé de pour survivre, on est obligé d'établir des moyens de survie différents.
Ça, c'est à l'échelle collective, mais à l'échelle individuelle.
Alors, maintenant.
Là, ça se complique, parce que qui m'a dit que moi, j'ai plus ma place dans ce domaine-là ?
Très bonne question. Ça, c'est au niveau...
collectif, ça se... C'est clair.
Très bien. Très bonne question.
Il y en a qui font ça, il y en a qui font ça. C'est un partage des tâches. C'est un contrat social dans lequel il y a une recherche de sens et il y a une exécution. Et parfois, même, il y a des rhinodes. Ils sont bien au courant de tout ça. Et quelque part, ils ne veulent pas aller plus loin dans la Torah, mais ils savent que derrière, il y a des gens là. Et donc, il faut aussi... c'est aussi horrible, parfois, qu'ils se mettent en première position en sachant ça. Sans que...
Alors, ta question est... Au niveau collectif, tout est très clair. Maintenant, au niveau personnel, il y a un rachis très, très intéressant. Lorsque Bnei Israël arrive au pied du mont Sinaï, Dieu ordonne à Moshe, dit aux Kohanim, qu'ils se sanctifient. Et Kadash, qu'ils se sanctifient. Rachis commente, il dit sur place, il dit « L'amod alomdam » qu'ils se mettent debout à leur place. Se sanctifier, s'être debout à ma place, oui. C'est quoi être kadosh? Kadosh, c'est faire c'est arriver au niveau optimal de réaliser ce que Dieu veut de moi. C'est quoi être à ma place? Ezra Chacham, c'est qui le sage, Ayodat me commence, qui connaît sa place. Donc il est absurde, comme dans une armée. Un homme petit, frêle, gros et gras, n'est pas fait pour être dans les paras. Un grand... Comment on appelle cela? D'accord. Costaud, musclé, d'accord. N'est pas fait pour être cristaux. Quelqu'un qui n'est pas fait pour s'asseoir 10 heures par jour devant le livre de Torah, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il y a des gens comme ça. Attention, c'est une minorité. Hein, parce que beaucoup de gens disent, moi je ne peux pas, et hop, c'est dur la Torah. C'est beaucoup plus, je crois qu'il n'y a aucun métier plus dur que cela. Aucun métier. Des textes ardus, tous les jours, de nouveau, à savoir, par cœur, très dur. Alors on a tendance à dire, c'est pas pour moi. Mais si quelqu'un vraiment n'est pas fait pour cela, absurde qu'il soit ici dans un échevin en train de chauffer les bancs, absurde. Au contraire, quelqu'un maintenant qui a les capacités et qui, pour des raisons extérieures, mensongères, démissionne, certain qu'il y a ici un manque. Donc à nous de savoir qui nous sommes. En général, au niveau personnel, le critère sera, comme je définis au début du cours, qu'il y a l'essentiel et l'accessoire. Tu n'es pas venu sur Terre pour te nourrir. Donc, étudie le maximum que tu peux. D'habitude, Dieu aide à décider. Comment? Quelqu'un qui est fait pour étudier, les robinets s'ouvrent assez miraculeusement. Ce n'est pas des miracles avec des fumigènes et des sentiments comme ça. Mais on voit que... On ne sait pas comment... Ça marche!
Ça manque pas.
Ça manque, toujours ça manque. Ça n'existe pas. Tout le monde manque. On manque 20%.
Là, qui, la nourriture, je parle. On n'a pas des manques.
Voilà, c'est pas facile, mais ça tient la route. Toujours il manque 20-30%, à peu près comme ça, dans toutes les familles. On devient un peu plus que. S'il commence à manquer 50%, 60%, 80% du budget. Anormal. On dit, arrête, ferme ta gmara, va travailler. D'habitude, c'est Dieu qui gère la chose. est quelqu'un qui est investi et qui travaille en Torah, alors il y a une aide spéciale qui vient. Comment il fait? Chacun il a son truc. Au bout d'un moment, très souvent, ils font des petits métiers à côté. Des petits métiers. Ou bien, ils commencent à rentrer dans l'enseignement de Torah. Ou ils sont scribes, ils écrivent. Ou business de tefillin. Ou n'importe quoi. Ça ne manque pas des métiers dans la Torah aussi. Il faut que tu aies dans le monde, tu circules encore, tu véhicules dans le monde de la Torah, avec une petite source aussi qui arrondit les fins de mois. Mais qui te reste essentiel, Torah. Et puis un beau jour, l'âge aussi fait que des fois, ok, tu tiens 5 ans, 10 ans, 15 ans, pour des moments, quelqu'un, il a besoin d'œil, il n'en peut plus aussi. Tout ça est géré par Akash Boruchou pour chacun spécialement. Mais pour des jeunes gens qui se posent la question, le critère doit être très très simple. Je vais me donner à fond, au maximum que je peux dans la Torah. Parce qu'il n'y a pas de grandeur humaine si ce n'est en Torah. Chazal disent même une chose. Ils disent « Eve mamed ba'esek la sukba Torah ». Amoindris tes affaires et affaire-toi de la Torah. Les gens comprennent, amoindris les affaires, des affaires de business, fais moins d'argent. C'est faux. Les rabbins disent non, amoindris tes affaires de mitzvot. Affaire-toi de la Torah. Même dans le cadre religieux de mitzvot, quelqu'un peut maintenant, je vais ouvrir maintenant un grand organisme d'entraide, un grand organisme de sauvetage d'urgence, un grand organisme de, je ne sais pas moi, pour ouvrir les mikvahot. Très bien. Tu as le choix maintenant. Entre ça, étudie la Torah. Étudie la Torah. Au début de ma carrière, je vais voir tous les grands de la Torah. Le Rav Shach, le Rav Eliashiv, le Rav Yisrael ben Shaul. J'avais le choix. Séminaire, je fais des séminaires qui rouvrent, ramener des gens à la Torah. Je sais bien leur parler, on peut... Torah, il m'a dit Torah. Tous m'ont dit Torah. Ben Azmanim, les vacances, fais des séminaires. Mais si je viens pas, il n'y est pas. Une fois, j'ai eu une histoire terrible. J'étais déjà dans les séminaires depuis longtemps. On avait un organisme en France. Et le dirigeant de cet organisme a fait son alia. Six mois de son alia, tout, il n'y a plus rien en France. C'est des séminaires, c'était un par mois, 100 personnes qui viennent, 50 personnes qui font tchouva au moins. Ça marchait très bien. Il y avait un qui venait de sortir des séminaires, qui a fait une belle tchouva. Il avait un magasin d'habits au sentier. Et il a commencé à la demi-journée, il étudiait. L'autre demi-journée, il bossait. Lui, c'était un homme d'affaires, un dirigeant. Il a beaucoup aimé les séminaires. Il dit, moi, je suis prêt à reprendre. Il me faut ma parnassa, mon gagne-pain. Donc, je conserve ma demi-journée au magasin. L'autre demi-journée, au lieu d'étudier, je m'occupe des séminaires. Je suis allé voir le rabbin Ismaël Bachaoul. Il m'a dit, non, qu'il étudie. Je lui ai dit, mais si, maintenant, il étudie, alors il n'y a plus de séminaire. Tamo Torah, Kanekula, mais le Torah est plus grande que ça. Alors, et moi, pour que je fasse des séminaires que j'ai étudiés. Il dit, toi, tu n'as plus le choix. Alors, t'es un crétin. T'as plus le choix. Il y a des gens qui sont en train de couler maintenant à la mer. T'es maître nageur, va les sauver. Pourquoi t'as appris à nager? Pourquoi t'as appris à être maître nageur? C'est plus le choix. Et c'est une grande mitzvah, c'est faire toujours aux gens. Le Zohar, il dit si les gens savaient ce que c'est faire, ramener à la Torah, ils couraient après la chaîne comme ils courent après leur vie. Mais ta motora. Plus haut que tout. Plus haut que tout. Parce que tout le monde sait, quand tu parles à quelqu'un, tu dis le même discours à certaines personnes. Il y en a qui sont réveillés, d'autres pas. De qui ça dépend? De toi? Toi, tu es détonateur, mais il faut encore qu'il y ait là-bas un écho. De qui vient l'écho dans le cœur de la personne? Que je vois où qui amène une lumière. Et pourquoi je vois où il amène là ou pas là? Torah. Comment se fait-il maintenant qu'il y ait des centaines de milliers de gens dans le monde qui font tchouva? La réponse est très claire. Parce que tu as des dizaines de milliers de gens qui étudient la Torah. Donc, ça rayonne de la kedusha dans le monde. Il y a des, on en voit, c'est pas physique, c'est métaphysique, mais tu as des missiles de kedusha qui sont allés, boum, dans tout le monde. Ils explosent, tac, et ça, il y a des éclats d'obus comme ça qui arrivent sur les personnes, et tac, ils se réveillent. Des éclats d'obus de lumière. Alors, il faut aussi sur le terrain quelqu'un qui aille leur parler. Pourquoi lui se réveille et l'autre pas? Parce qu'il y a de la Torah. Donc, c'est question de vie ou de mort. Vie ou de mort.
Mais avant, un homme, pour comprendre la Torah, il doit, quelque part, être sensible à la réalité. Et de la réalité même matérielle, d'aller creuser et planter et faire pousser et manger sa tomate, elle existe. Et j'ai quelque chose à apprendre là-dedans aussi.
Idéalement. Idéalement, ok, mais on n'est pas en idéal, on est en survie. Ça a eu été.
Donc le marron et Shiva qui sont pourtant de son temps, il lui échappe quelque chose de fondamental de la vie.
Encore une fois, tu as raison.
Parce que c'est dans le travail que je vais amener la Kedusha, c'est dans le travail, c'est face à la nécessité matérielle, c'est face aux relations sociales que je peux avoir avec les gens qui sont dans le travail. Encore une fois, loin de moi l'idée de penser que c'est l'essentiel, il est ailleurs.
J'ai bien compris. Je répète.
Mais l'homme qui se construit, l'homme, Adam Arishon et tout ce qui s'en suit, ils ont dans leur programme.
Oui, et la Torah ordonne. Je vais plus dans ton sens. La Torah ordonne. C'est marqué dans Pirkei Avot. C'est marqué dans le Rambam. C'est marqué dans Shulchan Aruch. Celui qui étudie, il ne travaille pas. C'est le Chilou Hashem. Il éteint la religion. C'est une Torah qui est pour finir amène des péchés. C'est une série de malédictions. Série de malédictions. Néanmoins. Tous les grands d'Atora ont dit, ok, même Shulchan Aruch qui a écrit cela, dans le Beit Yosef, c'est la source du Shulchan Aruch, il écrit, c'est la vie du Rambam. Mais, beaucoup de grands ont dit différemment, parce que dans notre situation actuelle, c'est ça ou rien. C'est ça ou rien. Donc nous vivons une situation qui est anormale, idéalement. Idéalement, comment vivait un juif?
Voilà, c'est ça que je
parce tous que les grands Tanaïs...
C'est 100% de Torah, et pas pour tout le monde, il faut aussi dire celui qui fait
idéalement, le juif,
idéalement
le juif, il se levait le matin avec le cocorico du coq et allait prier au net. Il étudiait une heure au Beth Midrash après. Après, il se levait, allait travailler. Travaillait 2-3 heures, 3-4 heures maximum. Finissait sa boutique, c'était déjà 11 heures meilleure, venait étudier jusqu'au soir. Et voilà. Et quand il se couchait, il allait dormir, il se réveillait avec le. D'accord, avant. Du coup, c'est comme ça. Ici, on m'a raconté, il y a 60 ans à Jérusalem, à minuit, tout Boukharim, c'est un quartier près de Mea Shearim, c'était Sfarad, mais très. À tendance kabbaliste, tout le monde se levait. Du coup, à minuit, dans les rues, comme ça. Étudiait. Ça, c'est idéal. Aujourd'hui, c'est le monde à l'envers. Monde à l'envers. On est obligé de trouver des situations qui sont à l'envers aussi.
Okay, alors, on est obligé de dire qu'il y en a qui se sacrifient à la fois pour ne pas étudier du tout et faire manger ce qui est. Ceux qui font que étudier, et ceux qui font étudier 100%, ils se sacrifient aussi pour tout ce que vous avez dit avant, c'est-à-dire pour qu'il y ait ce noyau dur qui puisse continuer à.
Je n'ai pas compris les premiers qui se sacrifient, ceux qui vont travailler.
J'ai oublié ça,
parce que ça va être un ancien débat. Non,
ils ne se sacrifient pas. Non, mais ceux qui sont pour 100%.
Ils ne se sacrifient pas. Eux, ils ont une chance. Les gens qui travaillent, qui donnent leur argent aux yeshivot pour que les gens étudient, ils ont une chance d'être branchés quelque part à la source de vie par le fait qu'ils aident les gens à étudier. Et idéalement, ils doivent dire merci. D'accord ? C'est nous qu'on leur dit merci, parce qu'on est poli. Mais idéalement.
On comprend que c'est un système où on a des intérêts communs, c'est tout. Mais on ne peut pas dire que, idéalement, à titre individuel, 100% de temps les Shiva, c'est bien.
Attends, il y a l'idéal actuel. Il y a l'idéal actuel, et il y a l'idéal messianique. L'idéal actuel, c'est ce que Dieu veut de moi. C'est ça ma question. Qu'est-ce que Dieu veut de moi aujourd'hui ?
Le choix de juif qu'il a voulu. C'est-à-dire qu'il se lève au cocorico et qu'il...
Non, c'est absurde. C'est absurde. T'es en situation d'urgence.
Moi, ça procure des problèmes. Parce que je suis en situation d'urgence.
Et alors, nous sommes en problème. On a la même barque.
Alors, j'ai le choix entre donner 100% ou donner 70%, vivre comme au cocorico et...
Moi, j'ai pas compris ce que tu dis.
Moi, je donne 100% de mon temps à Yeshiva.
Oui.
Mais je sais, c'est parce que la situation est anormale, pas beau.
Voilà.
Et moi, à titre individuel, étant donné que je suis un homme constitué d'une certaine manière, physiquement et spirituellement, je ne correspond pas au modèle qu'un collège beaucoup avait
d'accord.
Ou alors j'ai le choix de dire je vais faire 70-30, même si je peux étudier 100%, j'ai la tête pour.
Tu peux ?
Ça va m'équilibrer.
Ok, très bien, ok, alors j'ai dit, c'est certain, c'est ce que j'ai dit. Alors, a priori, il faut se sacrifier. Mais jusqu'à une certaine limite. On doit être équilibré, c'est certain. C'est quoi l'équilibre ? C'est si que je vois que je n'ai pas suffisamment pour mon épanouissement nécessaire, que ce soit au niveau de mon compte banque, ce n'est pas suffisant, ou bien que je suis en train de chauffer les bancs. Je ne peux pas.
On est même pour vivre, pour le travail, comme on disait tout à l'heure. on grandit aussi en se confrontant.
D'accord, alors je te dis maintenant.
En dehors du fait qu'à la banque j'ai besoin. Prenons le cas absurde, à la banque j'ai pas besoin.
Oui.
Mais je m'aperçois qu'en 100% de mon temps, il me manque là. Ce qui fait que je me confronte à quelque chose qui va me faire grandir encore plus.
D'accord, tu continues. Tu continues. Tu continues. Tu continues à étudier maintenant. Au bout d'un moment, ça devient trop pénible. Ok. Parce que c'est pas si facilement qu'on peut quitter les pupitres. C'est pas si facilement. Quelque part, c'est une démission sur le front. Alors, quelqu'un qui a un soleil sur le front, il n'en peut plus. Tu commences ça, je dis. On est en guerre maintenant. On tire tous les côtés. Boum, boum, boum. Et moi, je peux pas, j'ai envie de voir ma copine. Le type est sur le front. Écoute, tu dis, sergent, t'entends, copine, pas copine, de quoi tu me parles maintenant? Je peux pas, je veux voir ma copine. Mon vieux, tu quittes le front, t'es cour martial. L'autre, il a reçu, ça fait 320 kilos sur le front dans la boue, tout ça. S'il sort pas d'urgence, il fait une déprime grave, crise de nerfs. Je lui dis, tu fiches le camp tout de suite. Colme écrit le gouffre, chaque cas, il faut analyser. L'essentiel, c'est qu'il y ait le plus de pupitres de gens qui étudient, parce que ça a une valeur qui est plus grande que tout. Et en plus, ça amène l'épanouissement et la bracha et tout cela. Alors, faut un peu se serrer, on se serre un peu. Si ça, on doit trop se serrer, on n'en peut plus, ok. Personne ne demande, mission impossible. Et là, la nuance, elle est fine. Parce que d'habitude, on va avoir un gadol, c'est une question grave. Une question grave. On raconte sur le natif de Volozhin. Rabbi Natsiv, c'est Nathan Tzvi Yehuda Berlin, de Volozhin, qui avait une des plus grandes échivotes en Europe, qui a écrit un livre fantastique qui s'appelle Emek Davar, Approfondissement de la parole. Lorsqu'il a publié son livre à la fin de sa vie, Emek Davar, il a fait une grande fête. Et pourquoi vous faites? Il y a d'autres livres qu'il a édités, il n'a pas fait une si grande fête. Il dit parce que quand j'étais petit, j'étais un cancre à l'école. Et un jour, j'ai entendu mon père qui disait à ma mère à la cuisine, le petit Nathan Tzvi, je ne sais pas s'il va continuer à étudier la Torah. Demain, je vais l'amener chez le cordonnier, qu'il apprenne un métier. Tant qu'à faire. Moi, il amènera un peu de frères pour un peu d'argent, pour la famille, etc. À deux versions, une qui dit que directement le natif, il a entendu ça, il est rentré dans la cuisine en pleurant, non, je serai un bon élève, ou qu'il a fait un jour chez le cordonnier, il est rentré en courant chez le cordonnier, il dit non, je reviens au Talmud Torah. Et il a continué à étudier, il est devenu le natif de Volozhin. Il a dit, imaginez que je n'ai pas entendu cette discussion entre mon père et ma mère. C'était par la deuxième version, j'étais chez le cordonnier, puis c'était pas si mal, cordonnier sympathique, on fait des chaussures, et j'aurais été content là-bas. J'aurais été assurément un bon juif. J'aurais fait un shachri min harvi, j'aurais donné largement ma sœur au yeshivot, j'aurais étudié mes 2 heures par jour de Gemara, je me serais marié, j'aurais des enfants, ils seraient au Talmud Torah, j'aurais été un juif idéal. Et un beau jour, je serais mort. On m'aurait fait un enterrement comme il faut, avec tous les oraisons funèbres, sadique. Il a vécu toute sa vie comme il faut, il a étudié tous les jours, il n'a jamais fait de mal à une mouche, il a fait du chesed autour de lui, Artin Satochim. Kadosh, kadosh, kadosh. Je serais beau là-bas, on m'aurait dit, Nathan Tzvi, tu es accusé d'assassinat. Moi? Assassinat? Ouais.
Qui j'ai assassiné? Pas n'importe qui, on me dit, t'as assassiné le Gdolador, la grande génération.
Moi?
J'assigne le plus grand de la génération.
Oui, mon cher.
Tiens, on te montre sa photo. Je vois un barbu. Je vois derrière lui, il y a une étagère, c'est marqué c'est le livre à Emek Davar. L'homme qui devait écrire à Emek Davar, Harav Hagaon Gdolador, le natif de Volozhin, tu l'as assassiné. J'étais un bon juif. Bon juif? C'est ça que tu aurais dû être. On t'accuse d'assassinat du Gdolador. Qu'est-ce que j'aurais répondu? Ah ben, Baruch HaShem, je fais une grande fête. Parce que je sais que je ne serai pas accusé d'assassinat. Alors, nous ne sommes peut-être pas tous des futurs, certainement pas tous des futurs de Volozhin, mais comme disait un grand Rav Lachassidou, le Rav Zouche, il disait, j'ai pas peur quand j'arrive là-bas qu'on va m'accuser pourquoi j'ai pas été mon cher Rabbeinu. Mais je tremble qu'on m'accuse pourquoi j'ai pas été Zouche. Rabbi Zouche. On ne connaît pas nos potentiels.
on ne connaît pas nos potentiels. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le maximum. Le maximum, on est en guerre. Je vais raconter une dernière histoire que j'ai lue dernièrement qui m'a... Rav Yisraël est décédé en 1933. Il y a beaucoup de témoignages qu'il a vu ce qu'il allait se préparer en France, en Europe. Il a parti du camp rabbanim, il pleurait, c'était terrible. Et quand on lit tous ces livres de Rav Yisraël, on voit la tempête qu'il y avait en lui quand il voyait tous ces millions de juifs qui quittaient la Torah. Et lui voyait l'impact que ça avait dans le ciel et qu'est-ce que ça pouvait même amener comme conséquence terrible. Un jour, il y a un Bachor Yeshiva qui est venu à Radin pour voir le Rav Yisraël. Alors Radin, c'est la ville où habitait le Rav Yisraël. Il est arrivé tard la nuit. Et il était un peu perdu, il ne savait pas quoi. Il a raconté à un juif, il dit que je cherche le Rav Yisraël, qu'est-ce que je peux faire, où je peux passer la nuit demain. C'est déjà tard, il ne reçoit pas à cette heure-ci, où je peux passer la nuit. Voilà, tu me dis, viens, je t'invite chez moi. C'était le neveu de Rav Yisraël. Il est bien tombé. Il a donné à manger, il a dormi, il est allé dormir. On se met en lieu en pyjama, parce qu'il s'est rappelé, je n'ai pas pris hier vite. Me relever maintenant, il fait froid dehors, en pyjama, dans le lit déjà complètement après un voyage, complètement épuisé. Bon, dans deux minutes, c'était encore dans deux minutes, oh, puis allez, bon, demain, tant pis pour Arbitre, il va dormir. Il s'endort comme ça. C'est le lendemain matin, il va faire charrette avec le neveu, et après ils vont directement chez Rav Yisraël. Il rentre chez Rav Yisraël est sur son divan, mais tourné du côté du mur. Il ne voit même pas qui est rentré. Et lui, Kvod Harav, j'ai amené un juif, un bachour qui voulait vous voir. Il dit, comment quand on est en situation de guerre, on peut se permettre de ne pas prier arbitre? Le type, il est glacé sur place. Le bachour dit, Kvod Harav, je prends sur moi dans toute ma vie, jamais je raterai arbitre. Alors Harav s'est tourné vers lui, il a écouté, il a répondu sur ses questions. Esraïm, c'est quoi une prière de Harvit? Prière de Harvit! On est en guerre. On est en guerre. Il voit maintenant chaque petit. C'était le chef de l'armée. Tu as tous ces soldats. Maintenant, tu vois que partout l'ennemi est en train de gagner. Il y a un qui peut ici. On peut gagner un peu. On ne sait pas. Et la responsabilité est énorme. Énorme.
Mais on est chez nous, Torah, c'est pas tellement le résultat qui monte, c'est l'effort.
L'effort.
On ne vit plus à. À chaque fois que je vais en faire un truc, peut-être que si je le fais, ça va me développer.
Ça responsabilise, hein.
C'est énorme.
C'est vrai que les gens qui n'aiment pas entendre ça, ils disent vous culpabilisez. Moi, je dis je responsabilise. Ouais, c'est et c'est faux ce que je dis, c'est vrai.
Non, c'est vrai, mais à chaque fois.
Ok, allez, à chaque fois, allez.
Là, je suis crevé. Ah, si je me lève une heure de trois sur la tête, et vas-y. Chaque fois, je vais devoir aller encore plus.
Mais mon cher monsieur, comment est-ce qu'on rentre dans les unités d'élite de l'armée? Comment on devient général à l'armée? Et un beau jour, tu arrives au Lamaba, t'es un grand sadique. C'est quoi un grand sadique? Il est pépère. Pas pépère, il est en guerre. On est en guerre. Tu sais, je vais te consoler, pas pour longtemps. Ça va? C'est la dernière ligne droite. Déchire-toi!
Jusqu'à quand?
Je donne la date demain, d'accord?
Non, mais...
Jusqu'à quand?
Jusqu'à quand on doit faire à chaque fois de dire... Et si là,
équilibré, si là, intelligent. Je veux dire exactement. Si, on sait. C'est que toi, tu as des choix maintenant qui sont. Tu dois regarder maintenant, c'est quoi le millimètre en plus que je peux faire? Le millimètre en plus. On ne demande pas d'être Baba Salé, ni Rav Yisraël, faut pas rêver. On demande d'être guéri plus. Ça, c'est gagner la bataille. Parce que si ma chère vient demain, et te juge. Qui étais-tu? Alors, est-ce que tu es comme ça, ou comme ça? Comme ça. Regarde pas où tu es. Comment tu es? Comme ça, ou comme ça? Ça, ça n'existe pas tellement. Hein? Je sais pas, ma chère, c'est pas lui, mais il y a un moment, quand l'époque messianique arrive, les comptes sont terminés, voilà. Baruch Adonai, l'homme va m'aimer.